les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8. Chaque samedi à 10h.
En Méditerranée, du golfe du Lion au golfe de Gabès, c'est le même constat. Des ressources qu'on pensait inépuisables se raréfient. Les assemblages naturels d'espèces changent parfois de façon irréversible. Des méduses prolifèrent et les écosystèmes se retrouvent déstabilisés. Surpêche, invasion des espèces, pollution, changement climatique, face à tant de perturbations, serons-nous bientôt contraints de manger des méduses ? Pour en parler, trois invités par l'IRD, l'IRSTEA, le CNRS et l'INRA à la Villa Méditerranée il y a quelques jours. Frida Lasram, enseignante et chercheur à l'INAT de Tunisie. Frédéric Ménard, écologue et directeur de recherche IRD à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie de Marseille. Bertrand Vending, directeur général de Satoan, société coopérative maritime des pêcheurs de Sète. Et c'est lui qui, le premier, va répondre aux questions de Laila Buglione.
Mon nom c'est Bertrand Henning, j'ai 46 ans, je suis ingénieur à Lyotte, une formation de scientifique, mais j'ai toujours travaillé dans l'interface entre la profession, donc les pêcheurs professionnels, et la science. Et aujourd'hui je suis donc directeur d'une structure coopérative, donc une coopérative maritime, et qui est également reconnue organisation de producteurs, c'est une reconnaissance européenne qui nous octroie certains devoirs, mais qui nous permet aussi d'avoir certains droits. Et donc sont adhérents chez nous des pêcheurs qui le souhaitent. C'est une adhésion volontaire, il n'y a pas d'obligation, c'est pas une structure obligatoire. Et on a adhérents chez nous des pêcheurs de toute la façade méditerranéenne française, de la frontière espagnole jusqu'à la frontière italienne. On a aussi des adhérents en Corse. On a environ une centaine d'adhérents. Et on représente tous les types de métiers. Ça va des petites unités de moins de 10 mètres qui pêchent... le poulpe qui pêche le thon rouge à la ligne, comme des chalutiers qui pêchent au chalut, comme des thoniers seineurs qui pêchent le thon rouge à la Seine.
On parle de pêche, on parle de poissons. Vous pêchez donc une centaine de poissons en Méditerranée, il me semble. Il n'y en a que 4 qui sont suivis scientifiquement. Il y a des problèmes apparemment sur 2, les anchois et les sardines, au moins sur 2. Quel est le problème sur ces deux espèces et qu'est-ce qu'on sait sur les autres espèces pêchées?
Alors, nos pêcheurs, nos adhérents, pêchent en effet un grand nombre d'espèces en Méditerranée. Il y a plus d'une centaine qui sont capturées, comme vous l'avez précisé. Sur ces 100 espèces, malheureusement, les scientifiques n'en suivent que 5, pas 4, mais 5, de manière très précise. 2 espèces de petits poissons pélagiques, la sardine, l'anchois, qui représentaient des volumes importants il y a encore quelques années. 2 espèces dites de fond, le merlu et le rouget de vase. Et puis une espèce un peu emblématique que tout le monde connaît, qui est le thon rouge. Voilà. Et pour chacune de ces 5 espèces, il y a des diagnostics qui sont fixés par les scientifiques. Alors si on commence par le plus gros, le thon rouge, c'est un organisme international qui étudie l'état de la ressource. D'accord. Ensuite, il y a le merlu et puis la sardine et l'anchois. Et en effet, les scientifiques ont tiré un peu la sonnette d'alarme sur la sardine et l'anchois. On a depuis fin 2009 une situation un peu catastrophique qui est observée. C'est-à-dire que sur Sète, par exemple, au port de Sète, on avait entre 5 et 6 000 tonnes de sardines et d'anchois qui étaient pêchées chaque année. Je crois que cette année, nos bateaux ont dû en débarquer 15 ou 20 tonnes. Donc vous imaginez les différences entre ce qui était pêché dans les années 2008 et puis ce qui est pêché aujourd'hui. Et on a demandé à l'IFREMER de travailler dessus. Donc il y a un programme scientifique qui a été monté qui s'appelle EcoPelgol, financé en grande partie par la profession. Donc c'est un fonds privé qui a permis de mettre en œuvre ce programme et qui a permis d'obtenir des résultats vachement intéressants. Donc je ne suis pas le mieux placé pour en parler, je ne suis pas scientifique, mais enfin, c'est les gens de l'IFREMER qui pourront en parler. Mais globalement, ce que les scientifiques ont montré, c'est que c'est totalement dépendant de la pêche pour ces deux espèces-là, du moins, sardines et anchois. C'est lié principalement à des problèmes trophiques, c'est-à-dire à l'alimentation des sardines et anchois qui se nourrissent de plancton, des dérèglements trophiques pour lesquels les causes ne sont pas encore très bien connues. Mais en tout cas, les conséquences, elles sont flagrantes. C'est qu'aujourd'hui, même si on a un nombre de poissons important, les sardines et les anchois n'arrivent plus à grossir correctement avec toutes les répercussions que ça provoque. Voilà.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'ICAT, comment pêchent les thoniers sonneurs, quelles sont les techniques et surtout quelles sont les modalités de contrôle sur ces bateaux ?
Alors l'ICAT, c'est un organisme international rattaché à la FAO, donc sont adhérents à l'ICAT tous les pays qui bordent l'Atlantique et la Méditerranée. Et c'est une structure qui gère les thons en Atlantique, donc le thon rouge, mais aussi les autres espèces, et puis les poissons à rostre, ceux qui ont un nez pointu, donc les espadons et puis les marlins. Et parmi toutes ces espèces, il y en a une qui est très connue, c'est le thon rouge. Et donc, il y avait depuis quelques années, depuis plus de 15 ou 20 ans, des organisations non gouvernementales qui tiraient un peu la sonnette d'alarme sur cette espèce thon rouge, parce qu'il y a un problème d'ingérence internationale sur cette espèce. En 2006, pour faire simple, on a changé la règle du jeu de manière très drastique. On a coupé les robinets, renforcé les contrôles. Et donc la situation du stock s'améliore maintenant de manière importante. Les trois derniers avis scientifiques sur l'évaluation du stock de thon rouge sont positifs. D'ailleurs, les quotas augmentent depuis 2 ans maintenant. Et alors, pour expliquer, il y a en Méditerranée française deux types de pêche. Les gens qui pêchent le thon rouge à l'hameçon, qui sont des petits bateaux. Et puis les gens qui pêchent le thon rouge avec un filet qui les encercle, qui sont les seineurs. Et ces deux types de pêche sont extrêmement contrôlés aujourd'hui. Et j'en suis le principal témoin parce que nos pêcheurs sont contraints par toutes ces règles dont les gens ignorent la plupart l'existence. Et ces règles, elles vont, par exemple, pour un petit bateau de 10 mètres ou de 12 mètres, quand il a pêché des poissons, il doit prévenir 4 heures avant de rentrer au port qu'il a pêché 3, 4, 5 poissons. Une fois qu'il est rentré à quai, il doit attendre systématiquement les services de contrôle, gendarmerie maritime ou autres services de contrôle, les affaires maritimes. Tous les poissons sont bagués, tous les poissons sont marqués. Il y a un livre de pêche qui est contrôlé, il y a un journal de bord, il y a tout un tas de contrôles qui fait que maintenant le système est extrêmement régulé. Les pêches non déclarées, non enregistrées, donc la pêche illégale n'existe pratiquement plus, je dirais à 99,9%. Et ce qu'on constate, c'est que les quotas sont respectés et le prix, du coup, augmente. Voilà. Alors nous, on travaille activement dans cette procédure pour essayer de faire en sorte que l'image du marque des pêcheurs, elle change un peu, parce que les gens, on se disent, on n'a plus le droit de pêcher le thon rouge, c'est pas, il n'y en a plus, etc. etc. Donc, à titre d'exemple, on a créé une petite application iPhone, qui fonctionne aussi sur Android, qui s'appelle Thon Rouge Quota, vous pouvez tous y aller dessus, et qui permet à tous les pêcheurs de notre structure de suivre jour le jour l'intégralité de quotas, le nombre de poissons pêchés. Donc on peut savoir à tout moment, pour chaque poisson, donc on compte tous les poissons, on identifie chaque poisson, le quota, le taux de consommation, la date de pêche, le nom du pêcheur, et il y a même la photo du pêcheur. Donc vous allez sur cette petite application, vous pouvez suivre intégralement la pêcherie de thon rouge.
Donc pour vous, le fait que le stock de thon rouge remonte, c'est essentiellement dû aux mesures de contrôle.
Aux mesures de contrôle. En fait, le plan de reconstitution de thon rouge, il comportait 3 volets. Une réduction de la capacité, c'est-à-dire qu'il y avait trop de bateaux qui pêchaient. Donc l'ICAT a dit, maintenant, on diminue par 2 le nombre de navires, ou parfois plus que 2 d'ailleurs. Donc on limite le nombre de navires autorisés à pêcher. On limite les quantités à pêcher, donc ça c'est la réduction de quota. Il y a quelques années, on était à 32 000 tonnes de quota, on est passé à 13 000 tonnes. On a divisé par 3 la quantité de poissons autorisés à pêcher. Et on renforce les contrôles. Et c'est ces 3 volets qui ont fait grincer les dents chez les pêcheurs, mais ça c'est une obligation réglementaire, qui ont fait que la situation s'est largement améliorée. Et d'ailleurs, les pêcheurs ne s'en plaignent plus trop aujourd'hui parce que le prix moyen a largement augmenté. À titre d'exemple, quand je suis arrivé à Sète en 2005, le thon rouge pêché à la Seine, qui était débarqué dans les grandes surfaces françaises, il était vendu entre 2 et 3 euros du kilo. Aujourd'hui, le thon rouge pêché à la Seine, il n'est plus vendu en France. On n'a plus le droit de pêcher. Enfin, la réglementation fait qu'on ne peut plus pêcher de petits poissons et qu'on est obligé de pêcher des gros. Il part au marché de l'export et le prix moyen, c'est 10 euros à 12 euros du kilo. Donc on pêche moins, mais on vend mieux. Mais en fait, c'est ce qui compte pour l'ensemble des professionnels. Et c'est exactement pareil pour les pêcheurs à l'hameçon. Il y a quelques années, le prix était 1, 2, 3 euros du kilo. Aujourd'hui, un petit pêcheur qui pêche le thon rouge à l'hameçon, il va vendre entre 10 et 12 euros chez un grossiste. Et s'il vend lui-même au bout du quai, comme ça se fait un peu dans le Var ou dans des endroits où il y a des touristes, lui, il est capable de vendre à 15, 20 euros du kilo. Voilà.
Sur l'ensemble des espèces pêchées, il y a des restrictions qui existent. Est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisantes pour préserver le stock de poissons méditerranéens ?
Ce n'est pas moi qui suis le plus à même de dire si elles sont suffisantes. Nous, on constate et on subit la réglementation. Donc la réglementation, elle est fixée sur des décisions politiques qui s'appuient sur un avis scientifique. Donc ce sont les scientifiques qui évaluent la quantité de poissons qu'on est à même de pêcher. Ensuite, il y a des décisions politiques qui sont prises, qui ne suivent pas forcément systématiquement les avis scientifiques. En tout cas, nous, ce qu'on subit, c'est cette réglementation. Et il faut comprendre que pour la profession, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez par exemple sur une base de 35 heures. Demain, d'un point de vue réglementaire, on va vous imposer de travailler que 12 heures et votre salaire va être divisé par 2 ou par 3. C'est un peu ce que peuvent subir les professionnels. Voilà, ils sont complètement les pieds et mains liés avec la réglementation. Et il faut tout à fait comprendre les excès d'humeur que peuvent rencontrer la que peut exprimer la profession, parce que du jour au lendemain, on va leur obliger, on va les contraindre. Et ça, ben, pour des entreprises, ce n'est pas viable. C'est compliqué. Donc, ces mesures ont en général des répercussions positives pour la ressource. Je dis en général parce qu'on se rend compte qu'en Méditerranée, ben, il y a des problèmes de pollution ou de changement climatique qui peuvent avoir des impacts pour lesquels la réglementation ne pourra pas faire grand-chose. Mais en général, ça a des effets positifs pour la profession.
J'ai une dernière question. Je vais revenir sur le thon rouge. Au sein de Satoane, vous voulez mettre en place un label sur le thon rouge, il me semble. Pour quelles raisons mettre ce label et qu'est-ce que vous pensez des labels qui sont déjà existants, comme par exemple le label rouge, qui ne sont pas forcément ciblés?
Alors, nous, notre structure, elle a pour objet de valoriser le produit de la pêche pour essayer de vendre mieux. On pêche moins, mais on vend mieux. Et donc, on a déjà travaillé sur des signes officiels de qualité dans nos structures. On a obtenu, par exemple, un label rouge sur un produit transformé à base de poisson pêché en Méditerranée française, ce qui est une soupe de poisson. Et on travaille effectivement sur le thon rouge au travers d'une marque collective qui s'appelle Thon Rouge de Ligne. Cette marque, elle est contrôlée par un organisme indépendant. Et le cahier des charges pour utiliser cette marque, elle fixe des règles plus strictes sur la réglementation. Et comme c'est du thon rouge pêché à l'hameçon, on essaye de réduire, par exemple, tout ce qui est prise accessoire. Alors, quand on pêche le thon rouge à l'hameçon, il arrive que de temps en temps, on pêche des requins ou des raies. Et ben, au travers de cette marque, on impose les professionnels, les gens qui pêchent le thon rouge à l'hameçon, de remettre vivant les poissons à l'eau. Donc, ils pêchent un requin, il est vivant, on lui demande de le remettre à l'eau et pas de le débarquer. Et on travaille en partenariat avec les scientifiques pour, de temps en temps, marquer des requins de balise pour s'assurer que quand on les remet à l'eau, ben, ils restent vivants. Et donc, vous pouvez tous, d'ailleurs, vous amuser à aller sur un site internet qui s'appelle www.amop-du6selpal.com et vous verrez tous les animaux qu'on a marqués depuis 2 ans. Donc, ce sont des requins principalement, mais aussi des espadons et des raies. Et vous allez suivre ces individus depuis qu'on les a marqués. Vous voyez qu'il y en a qui ont fait 3 fois le tour dans la Méditerranée. Ils ne sont pas sortis encore, pas Gibraltar, mais ils sont pas mal passés. Et donc, on s'assure qu'il y a un taux de survie important. Donc, c'est le travail qu'on essaye de renforcer maintenant avec les professionnels, travailler activement avec les scientifiques pour montrer que la situation s'améliore. Et cette marque Thon Rouge de Ligne, elle a pour objet de revaloriser l'image du thon rouge et de faire connaître de manière positive le thon rouge auprès des consommateurs.
Wendling. J'appelle maintenant un chercheur de la rive nord, M. Frédéric Ménard, qui est directeur de recherche à l'IRD spécialisé dans l'écologie trophique. Il va nous expliquer ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Et donc, c'est Estelle Alexandre qui va l'interroger.
Alors, je m'appelle donc Frédéric Ménard. Je suis directeur de recherche dans un institut qui s'appelle l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. C'est un institut qui a vocation à travailler essentiellement dans la ceinture intertropicale, donc les chantiers plutôt au sud, avec un certain nombre d'outils qui nous permettent donc de travailler en partenariat avec nos collègues scientifiques du sud. Donc ça, c'est le cadre général de mon institut. Évidemment, on travaille aussi très étroitement avec les chercheurs français des autres instituts qui sont basés ici en métropole. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'écologie marine et dans, disons, le grand domaine de l'écologie marine, je m'intéresse plus particulièrement à ce que l'on appelle l'écologie trophique. Alors, trophique, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement les relations entre un prédateur et ses proies. Donc, on parle d'interaction trophique lorsque l'on parle, par exemple, de chaîne alimentaire. Donc, une chaîne alimentaire, c'est généralement quelque chose qui est linéaire. Une proie mangée par un prédateur, ce prédateur lui-même mangé par un autre prédateur. Et on parle souvent de réseau trophique parce que, évidemment, les choses ne sont pas linéaires dans notre monde. Elles sont plutôt complexes et on se retrouve avec des tas d'organismes différents qui sont en interaction les uns avec les autres dans ce que l'on appelle les réseaux trophiques. Et moi, j'essaye d'étudier les réseaux trophiques en me concentrant plus particulièrement sur les prédateurs supérieurs que sont les thons, mais plutôt les thons tropicaux.
Et justement, comme on a vu avec M. Wendling, quelles sont les différentes espèces de thons exploitées par l'homme dans le monde et quel est le débouché commercial pour chacune d'entre elles?
Alors, donc il y a des thons emblématiques, le thon rouge dont a parlé donc Bertrand, qui est un thon qui pose, enfin ou en tout cas qui génère des revenus absolument incroyables dans certains cas, puisque c'est payé notamment au Japon à des prix absolument exorbitants. Donc ça, c'est voilà, pêchés dans des très bonnes conditions, le thon rouge de qualité peut être vendu très très cher sur le marché de Tokyo. Ensuite, les thons tropicaux sont des espèces qui sont nettement moins recherchées sur le marché, mais certaines le sont de plus en plus. C'est notamment le cas du thon obèse, qui est donc un thon tropical, mais que l'on trouve aussi un petit peu dans les zones plus tempérées. On a deux espèces de thon qu'on trouve beaucoup plus facilement dans les boîtes de conserve, qui sont le listao, qui est un thon particulier, qui est pêché donc dans la ceinture tropicale, et le thon albacore, que l'on appelle yellowfin en anglais. Voilà, ça, ce sont des espèces, on va dire les espèces principales. On a une autre espèce qui est le thon germont, que vous connaissez aussi sous l'appellation du thon blanc, qui est pêché notamment aussi dans les zones tempérées, mais que l'on pêche aussi dans des zones tropicales et notamment aussi en Méditerranée.
Donc, pour continuer sur le poisson, l'appauvrissement des ressources marines est-il dû essentiellement à la surpêche ou aussi à la pollution ?
Alors, c'est un vaste débat. Évidemment, on a un vrai problème de surexploitation pour un certain nombre d'espèces qui sont liées simplement au fait qu'à partir des années 70, l'homme a été capable de mettre au service de ses capacités d'extraction de ressources marines des outils de plus en plus sophistiqués, donc des bateaux de plus en plus sophistiqués et des moyens de plus en plus sophistiqués pour détecter les poissons, éventuellement même les concentrer pour pouvoir faciliter leur capture. Donc ça, évidemment, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que les engins de pêche ont une action parfois aussi sur les habitats. Donc vous savez tous que, par exemple, les chaluts de fond raclent donc les fonds marins et donc ont évidemment un impact sur l'habitat, sur les plateaux continentaux. Donc ça, c'est un impact. Après, on a évidemment des questions qui peuvent être liées à la pollution, mais je pense que les questions de pollution ne sont pas un vecteur de mortalité supplémentaire significatif pour les poissons. En revanche, plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus en effet on peut se retrouver confronté à des concentrations de polluants que l'on n'est pas toujours capable de détecter et qui peuvent poser des problèmes, alors là qui sont des problèmes plutôt de santé publique.
Et du coup, face à ces modifications, donc pollution et tout ce qui est réchauffement climatique, y a-t-il une égalité entre les espèces pour lutter face à ce changement justement, en partant sur une notion d'espèce invasive peut-être ?
Alors là aussi, donc en effet, changement climatique pose la question en effet on va simplifier, mais en gros de la hausse de la température. Donc évidemment, on est dans le milieu marin, donc on est dans un milieu fluide dans lequel les espèces peuvent se déplacer. Donc l'action numéro un des changements de température, c'est en effet des modifications des aires de répartition des espèces, avec donc des modifications dans les relations qu'il va y avoir entre les espèces qui vont se retrouver peut-être à un moment, à un endroit où habituellement elles étaient que très peu présentes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on peut parler d'ailleurs dans ces cas-là parfois d'espèces invasives. Les espèces invasives sont plutôt des espèces qui sont apportées par des actions de l'homme. Par exemple, le transport maritime, les eaux de ballast. Par exemple, un canal, le canal de Suez, qui génère des invasions d'espèces que l'on appelle les espèces lessepsiennes. Donc peut-être que Frida en touchera un mot dans un cas particulier, mais voilà. D'accord. On a, par exemple, un tout petit exemple sur les temps de berre. On a une espèce de cténophore. Donc, un cténophore, c'est assez proche des méduses, qui s'est mis à pulluler dans les temps de berre, alors qu'habituellement, on ne la connaissait pas. Donc, ça fait environ 5-10 ans, peut-être, qu'on a comme ça des explosions, parfois démographiques, de cette espèce qui pose évidemment des problèmes parce qu'elle occupe une place, on appelle ça dans notre jargon une niche, donc c'est, en gros c'est sa place, son habitat, et à partir du moment où elle occupe l'habitat, bah, évidemment c'est au détriment d'autres espèces, donc ça pose des problèmes évidemment.
Et du coup justement, est-ce que vous pouvez expliquer le phénomène des espèces invasives et quels sont les risques pour les espèces endémiques ?
Alors, une espèce invasive, on parle généralement d'espèce invasive quand elle se met justement à envahir et donc à se mettre à pulluler d'une certaine façon, ou en tout cas à prendre la place d'autres espèces. Et à partir du moment où elle prend la place d'autres espèces, il peut y avoir un appauvrissement de la diversité, donc de la diversité dans les écosystèmes dans lesquels cette espèce se met à croître de façon disproportionnée. Il peut y avoir des espèces invasives qui vont modifier l'habitat, parce qu'il y a des espèces invasives qu'on appelle des espèces ingénieures, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une action, par exemple, sur le substrat, et va donc peut-être modifier l'habitat précédent. Il peut y avoir des espèces comme, par exemple, des espèces d'algues, des macro-algues, qui vont former des canopées, et des canopées qui, dans ces cas-là, vont limiter l'accès de la lumière, et donc vont modifier, en fait, tous les équilibres et les compositions spécifiques des espèces dans les écosystèmes. Voilà, en gros, tous les impacts qu'il peut y avoir au niveau des espèces invasives. Avec aussi des problèmes parfois de mortalité importante pour d'autres espèces et de disparition d'espèces endémiques.
Et quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place ou qui sont mises en place par les organisations politiques, ou du moins quelle a été leur régulation ?
Pour les espèces invasives ?
Les espèces invasives et la surpêche.
Ok. Alors pour les espèces invasives, il n'y a pas énormément de moyens d'action. En tout cas, j'en vois pas directement. Souvent, on fait confiance à l'écosystème pour essayer qu'il puisse retrouver son équilibre. Et c'est ce que l'on constate souvent, mais pas toujours. Après, en termes de mesures de régulation, évidemment, donc Bertrand en a parlé, hein, il y a le système des quotas. Donc les quotas, c'est le contrôle des quantités pêchées. Donc imposer une quantité pêchée à des pêcheurs, à un type de pêche. Après, il y a évidemment un autre moyen dont vous avez entendu parler, ce sont les aires marines protégées. Donc comment mettre en place des systèmes d'aires marines protégées dans lesquels on considère qu'on a une zone de cantonnement et où on va soit réguler fortement la pêche, soit complètement l'interdire. Donc après, la question se pose de savoir, faut-il une multitude de petites aires marines protégées ou faut-il quelques grandes aires marines protégées ? Il y a une étude toute récente qui vient de sortir, où il y a un chercheur qui a fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc il a étudié un ensemble d'études scientifiques sur les aires marines protégées à l'échelle globale. Et sa conclusion, c'est qu'il faudrait que 30% des zones océaniques soient maintenant protégées.
Merci, monsieur
Ménard.
Merci beaucoup. Voilà, je pense que vous ne nous avez pas dit si vous étiez d'accord avec monsieur Wendling pour dire si est-ce qu'il y a le thon rouge et les stocks à grimper de manière suffisante et satisfaisante. Mais je pense que dans la troisième partie, la partie du débat, vous nous le direz. J'appelle maintenant, si elle le veut bien, Frida Lasram, qui est chercheure, parce qu'elle n'aime pas qu'on dit chercheuse. Et pour l'interroger, c'est mademoiselle Camille Conta qui prend le micro. Camille, c'est à vous.
Bonsoir. J'ai compris que vous avez créé un modèle mathématique pour prédire l'avenir des stocks de poissons en Méditerranée et qui tient compte du réchauffement climatique, de la pollution et de la pêche. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette modélisation et son degré de fiabilité ?
Oui, c'est vrai, on met en place des modèles mathématiques. Ma spécialité, c'est plutôt les modèles de niche. Donc ce sont des modèles justement qui vont prédire la distribution spatiale des espèces et essayer de les projeter à l'avenir en fonction des scénarios climatiques. Il y a d'autres modèles, justement les modèles trophiques dont parlait Frédéric Ménard tout à l'heure, qui eux sont plutôt consacrés à la formalisation des relations entre les espèces. Et dans le cadre de ce qu'on appelle l'approche écosystémique des pêches, on essaie justement de coupler ces deux modèles pour avoir des projections fiables. Alors, les modèles de niche, donc, on les a mis en place à l'échelle globale, à l'échelle de la Méditerranée, mais on a également essayé de faire un zoom sur un écosystème particulier du sud de la Méditerranée, du sud de la Tunisie, qui s'appelle le golfe de Gabès. Alors, à l'échelle de la Méditerranée, nous avons modélisé des espèces endémiques. Pourquoi ? Parce que, simplement, elles sont faciles à modéliser, étant donné qu'elles sont à l'équilibre. Puisque les modèles n'aiment pas être alimentés par des aires de distribution, je dirais, encore mobiles ou incertaines, comme celles des espèces exotiques, par exemple. Et nous avons en gros 79 espèces endémiques de poissons, je parle des poissons en Méditerranée, et les résultats ont montré trois sortes d'évolutions possibles. Des espèces qui vont finir par s'éteindre assez rapidement. Donc ce sont plutôt des espèces qu'on appelle des espèces cryptiques, c'est-à-dire dont les aires de répartition sont limitées à des golfes ou à des mers comme la mer Adriatique, par exemple. Ce sont plutôt des espèces d'eau froide. Donc ce sont elles qui vont s'éteindre dans un premier temps, à la moitié du siècle, 2050 par exemple. On a une autre évolution, c'est la fragmentation des habitats. Je vous donne un exemple, la fosse limande, Arnoglossus, donc son nom barbare latin, c'est une espèce qui va voir plutôt son aire de distribution se fragmenter. Et la troisième évolution possible, c'est justement l'expansion des espèces qu'on appelle thermophiles. Donc ce sont des espèces qui se trouvent actuellement au sud de la Méditerranée. Étant donné que les eaux vont se réchauffer, elles pourront étendre leur aire de distribution et se retrouver par exemple dans le golfe du Lion ou la mer Adriatique, qui sont connues pour être les zones les plus froides de Méditerranée. Un exemple, la sole égyptienne.
Très bien. Quels sont les effets du changement climatique sur la biodiversité des poissons ?
Alors, comme je viens de vous l'expliquer, c'est tout d'abord tout ce qui est extinction d'espèces, fragmentation d'habitats et mouvements migratoires, en particulièrement des mouvements vers le nord. Mais également, ceci va impacter les relations entre les espèces au sein de la chaîne alimentaire, donc les espèces qui se mangent les unes les autres. Imaginez si une proie disparaît. Typiquement, par exemple, les gobies, ce sont les espèces qui vont, apparemment, d'après nos modèles, ce sont celles qui vont disparaître à la moitié du siècle. Si les gobies disparaissent, les prédateurs des gobies, ben, comment ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont plutôt basculer vers une autre proie ? On sait que les poissons sont plutôt des opportunistes, c'est-à-dire qu'ils mangent ce qu'ils rencontrent à la même place, à un instant T. Par contre, si on est sur des espèces plutôt spécialistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'élargir le régime alimentaire, on va assister à toute une modification du fonctionnement de l'écosystème d'un point de vue trophique.
Et quels sont les effets de la pêche sur cette biodiversité ?
Les effets de la pêche sont connus, évidemment. On sait que la surpêche, parce que la pêche, finalement, l'homme est un prédateur comme les autres. On ne va pas empêcher les gens de pêcher, on ne va pas se mettre à manger autre chose que du poisson, il n'y a pas de raison. La pêche est malsaine quand elle est mal pratiquée. Donc le rôle de la pêche, il y a des stocks qui sont surexploités, mais la part de responsabilité de la pêche dans l'extinction, la diminution des stocks des espèces est encore en cours d'étude, parce qu'on sait que les espèces, finalement, elles subissent un faisceau de contraintes. Une espèce qui est exploitée, elle voit ses stocks quand même un peu diminuer. Si en plus, c'est une espèce plutôt d'eau froide qui est malmenée par le réchauffement climatique, et si pour couronner le tout, il y a une espèce exotique qui va la concurrencer, et bien ce sont les trois facteurs qui vont agir ensemble en synergie. On dit que l'espèce subit un faisceau de contraintes qui est partagé entre la pêche ou le réchauffement, et on ne peut pas imputer ça uniquement à la pêche.
Donc, avec le réchauffement climatique, des espèces de la mer Rouge étendent leur aire de répartition en Méditerranée via le canal de Suez. Et quels effets produisent ces espèces invasives sur les espèces endémiques ? Avez-vous des exemples concrets ?
Oui, alors, pour clarifier un peu les choses, les espèces exotiques, évidemment, pénètrent en Méditerranée via le canal de Suez, mais également via le détroit de Gibraltar. Nous, ce qui nous marque, ce sont les espèces, ce qu'on appelle les espèces lessepsiennes, donc qui pénètrent via le canal de Suez. Pourquoi ? Parce qu'elles sont facilement identifiables. Donc, ce sont des espèces de mer Rouge. Donc, on sait qu'en mer Rouge, c'est plutôt des récifs coralliens. Donc, les espèces, elles ont des formes et des couleurs très différentes des espèces de la Méditerranée. C'est pour ça que on parle plus des invasions lessepsiennes que des invasions qui viennent de l'océan Atlantique, mais il faut savoir que ça existe. Alors l'impact sur les espèces endémiques, c'est une perte des particularités méditerranéennes, parce qu'une espèce endémique, c'est une espèce qui existe uniquement en Méditerranée. S'il y a une espèce exotique qui va la concurrencer et occuper sa niche, donc sa place, voire la pousser à l'extinction, ben, finalement, d'un point de vue purement comptable, ben vous perdez une espèce, vous en gagnez une. Finalement, le nombre d'espèces totales n'a pas été touché. Mais nous, ce qu'on perd au niveau de la Méditerranée, c'est justement les particularités régionales de la Méditerranée. Et si vous perdez une espèce endémique en Méditerranée, ça prouve qu'elle aura disparu de la planète entière.
En Tunisie, le golfe de Gabès est victime de la pêche illicite. Par qui et pourquoi est-elle pratiquée? Quels en sont les impacts et comment lutter contre cette pêche?
Oui, alors la pêche illicite dans le golfe de Gabès, c'est un grand débat. C'est une pêche qui est très destructrice, qui est pratiquée par... on sait par exemple que le chalutage benthique, il y a une réglementation, donc le chalutage benthique doit avoir lieu au-delà de 50 mètres de profondeur pour éviter de détruire l'herbier de Posidonie, pour épargner les juvéniles, les larves, etc. Dans le golfe de Gabès, depuis les années 80, on a vu une pêche illicite. En fait, ce sont des petits bateaux de pêche côtière qui traînent un mini chalut et qui est déployé par 5 mètres de fond. Donc imaginez un peu, 5 mètres de fond, ça arrache tout l'herbier de Posidonie, c'est très destructeur. Les autorités ont réussi à bien gérer le phénomène dans les années 90, début 2000, mais malheureusement, depuis le printemps arabe 2011, il y a un laisser-aller. Je comprends parfaitement, les autorités ont autre chose à faire que... il y a des choses beaucoup plus vitales que de s'occuper de la pêche. Et là, on assiste à une prolifération de ces engins destructeurs. Il y a quand même du positif dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est que les pêcheurs professionnels commencent à lutter contre la pêche illicite. Donc, ils se rassemblent, on assiste à des revendications, etc., pour essayer de secouer un peu les autorités pour qu'elles essayent d'éradiquer un peu ce phénomène.
Et dernière question, la COP22 aura lieu en novembre 2016. Selon vous, quelles sont les actions prioritaires à mettre en place pour progresser ?
Dans la protection de la biodiversité ?
Oui, par exemple.
Dans la protection de la biodiversité, alors moi je prône une recherche fédérative, c'est-à-dire que à mon sens il faut fédérer plusieurs compétences, pas uniquement les chercheurs mais également les professionnels, les sciences sociales et économiques pour essayer de fédérer différents points de vue, de proposer différents scénarios de gestion pour la protection de la biodiversité. Il y a des outils qui sont connus pour la protection de la biodiversité, comme les aires marines protégées, mais elles sont souvent perçues comme étant une chape de plomb où on n'a pas du tout le droit de pêcher, etc. Au contraire, il faudrait aller plus vers une approche écosystémique, c'est-à-dire essayer de concilier la conservation de la biodiversité, mais également la pêche durable.
Merci.
Merci beaucoup. Merci, Madame Lasram. Restez assis, je vous en prie. J'appelle à la tribune maintenant M. Frédéric Ménard et Bertrand Wendling, bien sûr. Je crois qu'il y a eu beaucoup de... C'était un teasing, mais je pense que c'était dense. Hein. Énormément d'informations. Moi, je me demande si M. Ménard est tout à fait d'accord avec M. Wendling sur la quantité de thon rouge en Méditerranée. On verra peut-être ça tout à l'heure. Maintenant, la parole est à la salle. Monsieur.
Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé des sardines et des anchois et vous avez cité un chiffre, je crois, de pêche de 15 000 tonnes ou quelque chose comme ça il y a quelques années. C'était ça, 15 000 ?
À titre d'exemple, sur le port de Sète, on pêchait entre 5 et 7 000 tonnes sardines anchois confondues.
Voilà.
Et aujourd'hui, on doit être à moins de 100 tonnes. Moins 2, plus loin 100, 100. C'est beaucoup plus rien.
Et...
Quelles sont les raisons de cet effondrement ? Alors, il y a deux raisons. D'une part, parce que les poissons ont changé de taille, c'est-à-dire que, c'est pas moi qui le dis, il faudrait laisser parler les scientifiques de l'Ifremer, mais dans le cadre du travail Copelgol, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de croissance. En fait, les sardines n'arrivent pas à se nourrir correctement, la taille du plancton ayant changé. Les sardines grossissent moins, elles restent plus petites. Et la taille d'une sardine à 2 ans est beaucoup plus faible qu'il y a quelques années. et les pêcheurs ne vont plus la pêcher parce que ben on peut plus vendre de la sardine trop petite parce que les gens, les consommateurs n'en veulent pas tout simplement.
Oui, la question que pose monsieur qui n'a plus le micro, c'est pourquoi le plancton, hein. On déplace la question. Pourquoi le plancton a-t-il diminué de taille? Je vois monsieur Frédéric Ménard.
J'ai pas la réponse, peut-être que Frédéric peut donner quelques explications.
J'ai pas la réponse directe, mais je me suis aussi un peu intéressé au projet Ecopelgol. Donc, en effet, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Bertrand. Hein. Juste deux petits compléments. Donc, en effet, on pense qu'il y a eu une modification dans la composition spécifique du zooplancton. Et le zooplancton aurait donc été moins riche en termes d'apport alimentaire pour les sardines et les anchois. Donc, cette perte de qualité en nourriture peut expliquer justement la baisse de croissance chez les organismes comme les sardines et les anchois, et notamment comme l'objectif chez les poissons, comme chez tous les animaux, c'est la reproduction. Ces petits poissons, en fait, ont le choix entre investir dans le fait de se reproduire ou de grandir. Et évidemment, avec peu de nourriture, ils ont fait le choix de se reproduire le plus vite possible au détriment de la croissance. Et c'est une autre des raisons pour lesquelles on trouve malgré tout des abondances importantes de poissons en termes de quantitatif, de comptage, mais une biomasse beaucoup plus faible. Pour revenir après sur la question de l'alimentation, en effet, on n'a pas de données actuellement qui nous permettent de trancher réellement, mais on pense que les modifications environnementales, donc de l'environnement physique, ont probablement conduit à des modifications de la composition en espèces du plancton, conduisant donc à des espèces moins riches en termes alimentaires et donc avec des problèmes qui se répercutent avec un effet cascade de propagation dans les chaînes alimentaires.
Merci, M. Ménard. On a donc, une question
pour M. Wendling. Je trouve extrêmement intéressant l'approche coopérative dans la gestion de la ressource. Et est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur le fonctionnement de l'adhésion à la SATOAN et éventuellement l'aspect représentativité des coopératives, s'il en existe plusieurs, par rapport à la pêche en général et aux pêcheurs en général? Donc,
Il y a des coopératives comme la nôtre, il y en a 5 en Méditerranée française, en gros les 5 principales. Elles sont toutes réunies au sein d'une structure associative qui s'appelle l'AMOP, l'Association des organisations de producteurs. Et c'est cette structure collective qui finance les projets de partenariat scientifique. Et donc depuis 4 ans, on a débloqué presque 4 millions d'euros pour des projets de collaboration scientifique. Et les adhésions, elles sont diverses et variées. Les modalités d'adhésion sont diverses et variées. On a des structures privées, donc les gens font la demande d'adhésion chez nous. Donc adhérer à une structure comme la nôtre, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le pêcheur va débarquer un kilo, il va payer quelques centimes. En contrepartie de cette adhésion, on apporte du service. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le processus, mais par exemple, en France, les organisations de producteurs sont habilitées à gérer les quotas. Donc notre structure, par exemple, détient plus de la moitié du quota de thon rouge en Méditerranée française. Donc on a un acteur important. Et donc beaucoup de gens qui viennent adhérer chez nous le viennent pour des raisons de quota de thon rouge. Voilà. Donc après, bon, vous pouvez me contacter en direct si vous êtes pêcheur et que vous voulez adhérer, pas de souci. Mais ça a un coût, c'est un coût important. Et je dirais en termes de représentativité, donc nous on représente plus de 60% du quota français de thon rouge. Et on a 2/3 des tonniers seineurs et plus de la moitié de petits métiers qui pêchent à l'hameçon. Donc en Méditerranée française, il y a 100 navires qui pêchent le thon rouge à l'hameçon et on en a presque 50 adhérents chez nous. Donc on a une forte représentativité pour ce métier-là, moins forte sur d'autres métiers. Après, ça, c'est au choix du pêcheur.
Merci. Est-ce qu'on a une autre question, monsieur au fond de la salle?
Bonjour. Ma question porte sur le thon rouge également et sur quelque chose que vous avez évoqué. C'est sur ce que vous avez appelé l'ingérence extérieure dans la définition, dans la définition du montant des quotas. Alors, je me souviens, il y a quelques années, 6 ou 7 ans, on voyait effectivement dans un article de journal le Premier ministre australien et le Premier ministre japonais se serrer la main pour se féliciter d'avoir obtenu dans la négociation une hausse des quotas. Alors, je cite juste cet exemple pour savoir si ce genre de choses existe toujours. Voilà. Et comment se passe, comment se négocie vis-à-vis de ces tentatives d'ingérence extérieure la définition des quotas?
Alors, juste pour préciser, le thon rouge, il y a 3 stocks au travers le monde. Nous, on ne parle que du thon rouge atlantique et méditerranée. Vous faites référence au thon rouge du sud. L'Australie, c'est un autre stock qui est en situation bien différente.
Excusez-moi, il s'agissait de la définition des quotas en Méditerranée.
Alors,
Excusez-moi, j'ai oublié de préciser ça.
Pas de souci. Pour le thon rouge qui est pêché en Méditerranée, il y a en fait en Atlantique et Méditerranée deux stocks. On a tracé un peu administrativement une ligne au milieu de l'Atlantique. Côté ouest, il y a un stock. Côté est, il y a un autre stock. Donc ça, le côté est, qui nous concerne nous, c'est Atlantique Est et Méditerranée. Comment est fixé le quota? Ben, chaque année, il y a des scientifiques qui se réunissent, ou tous les deux ans, pour le thon rouge, parce que c'est une espèce qui a cycle long, donc on ne fait pas une évaluation tous les ans, mais tous les deux ans. Et les scientifiques disent, voilà, pour que le stock se porte bien, il ne faut pas qu'on pêche plus de tant de tonnes par an. Et donc, comme c'est des calculs mathématiques, en général, ces scientifiques donnent une fourchette. Ils disent, ben, il faudrait pêcher entre tant de tonnes et tant de tonnes. Et cet avis scientifique est soumis à une décision politique. Et donc, il y a une réunion avec tous les pays, et ce sont des gens qui représentent chacun des États, donc des politiciens, disons, qui sont des ministres ou des chargés des pêches, qui décident du quota alloué. Et donc, pendant de nombreuses années, la décision politique ne suivait pas l'avis scientifique. Jusqu'en 2006, on pêchait plus, les décisions politiques étaient supérieures à l'avis scientifique. Aujourd'hui, on est pile poil dans l'avis scientifique, donc les décisions de quota qui sont fixées depuis 2008 rentrent pleinement dans la fourchette qui est proposée par les scientifiques. Alors, ça rentre dans la fourchette. Pour certains, il faudrait prendre la valeur basse, les écologistes. Pour les professionnels, il faudrait prendre la fourchette haute. Mais globalement, on est dans la situation centrale. Et les évaluations mathématiques de stock montrent que le stock se reconstitue et qu'on atteint progressivement, avec un bon pourcentage, la probabilité de reconstitution totale du stock. Et d'ailleurs, les derniers avis scientifiques qui datent de 2015 montrent que la biomasse totale de thon rouge est 4 fois supérieure à celle qui était mesurée dans les années 50, même s'il y a des incertitudes sur les évaluations, la situation s'améliore.
Une autre question, je crois qu'il y avait un monsieur ici.
Oui, bonjour. Alors moi, j'ai pas une question, j'en ai plusieurs.
Bah, commencez une par une alors, une par une, parce que sinon après on va s'y perdre.
Moi, voilà, je voudrais connaître
la première avant la seconde. Ouais,
vous venez de répondre un petit peu à la question là. La situation réelle du thon rouge et des pêcheurs. Chaque fois que je m'intéresse au sujet, et c'est relativement souvent, je vois des pêcheurs qui se plaignent, qui sont dans une panade pas possible, ils sont tous au chômage, les bateaux sont à la casse sans arrêt, les quelques bateaux qui restent sont dans un état pitoyable. Et donc, eux, ils disent, on est au chômage, on n'a pas de rond, il n'y a pas de poisson, on nous empêche de pêcher. Et là, vous me dites, ah non, il y a plein de poissons, c'est bon, il y a du thon rouge. Bon, on le vend un peu plus cher, mais voilà. Alors, c'est quoi la vraie...
Aujourd'hui, la réglementation, elle s'est radicalement amplifiée et l'ICAT, l'organisme international qui gère les pêcheries du thon rouge, donc aussi bien pour la France que pour l'Espagne, que pour le Méditerranée, mais aussi pour les autres pays comme qui sont non communautaires, elle a dit on va fixer un nombre de bateaux limité pour le thon rouge. Par exemple, les grands bateaux qui pêchent à la Seine, il n'y en a que 17 en Méditerranée française et il n'y en aura pas un de plus. D'accord ? Et pour les petits métiers qui pêchent à l'hameçon, il y en aura 94, aujourd'hui ils sont 100, mais à l'époque c'était 94. Donc on a limité la quantité autorisée à pêcher. Donc on a fixé un nombre de bateaux, on a dit ben, ça ne bougera plus, et on a fixé une quantité à pêcher, on dit on ne pêchera pas plus. La situation, au travers de cette réglementation, s'est améliorée. Et donc le stock s'est amélioré et on pêche plus facilement du thon rouge aujourd'hui. Et en plus, comme les quotas sont suivis, qu'il n'y a pas de pêche illégale, le prix a augmenté. Et donc, il faut comprendre que tous les gens qui n'ont plus le droit de pêcher, ils ont envie de pêcher. Et ça crée des jalousies et des tensions énormes entre ceux qui ont le droit, et donc qui ont une espèce de rente, parce que maintenant, moi, j'ai un permis, j'ai le droit, et tous ceux qui aimeraient, mais qui n'ont pas le droit. Mais voilà, ça, c'est le pendant de la réglementation, c'est que si on limite une quantité limitée, on augmente le prix. Si on limite le nombre de dangers autorisés à pêcher, on crée de la jalousie ou des tensions. Mais si on ouvre le système, on se retrouve dans les années 90 et avec de la pêche irrégulée, non contrôlée et des dépassements de quotas. Donc c'est un pendant de la mise en œuvre de cette réglementation.
Voilà. Je crois que M. Frédéric Ménard aussi voulait ajouter un
oui,
point.
Oui, juste un tout petit point. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a décrit Bertrand. Hein, c'est tout à fait juste. Je pense que la situation est en effet bonne en ce moment et tant mieux. On devrait tous s'en réjouir. Elle est probablement encore un peu fragile parce que, comme l'a rappelé Bertrand, c'est une espèce très longévive. Le thon rouge, et notamment c'est une espèce longévive et c'est une espèce pour laquelle on parle souvent d'effet maternel, et l'effet maternel en quelques mots, c'est que en gros ce sont plutôt les femelles âgées qui vont pouvoir donner des œufs qui vont être les plus viables et des larves qui seront probablement les plus aptes à survivre. Donc on a intérêt à reconstituer en effet de façon pérenne le stock en augmentant la proportion justement des grands individus. Et ça met quand même du temps à grandir, hein. Ça met quand même beaucoup, plusieurs années. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, évidemment, les mesures de régulation ont joué un rôle fondamental dans la reconstitution du stock. Mais très probablement, nous avons probablement connu des années favorables en termes environnementaux à la survie justement des larves et des juvéniles de thon rouge. Donc c'est probablement une conjonction de deux facteurs. Enfin, une pêche régulée et des captures respectées, alliées à probablement des conditions environnementales qui ont favorisé la survie des jeunes thons rouges.
Mademoiselle.
Moi, j'ai une question pour Frida. Tout à l'heure, vous avez dit que par le canal de Suez, il y a beaucoup d'espèces exotiques qui passaient en Méditerranée. Et oui. Vous avez parlé de poissons qui sont particulièrement colorés. Nous, personnellement, on a vu en cours que plus un poisson est coloré, plus il a de chances d'être prédaté. Est-ce que, du coup, ça ne va pas permettre à des gros prédateurs de pouvoir plus facilement se nourrir? Et est-ce que justement ces espèces exotiques vont vraiment poser un problème?
Voilà, oui. Et puis pour compléter la question, en préparant cet entretien, vous m'avez dit aussi que dans les espèces lessepsiennes, donc celles qui empruntent le canal de Ferdinand de Lesseps, il y avait un problème avec la crevette, la célèbre crevette de Tunisie qui a été détrônée par sa petite cousine de mer rouge. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ces deux questions?
Oui, alors en fait, il y en a deux, hein, des crevettes lessepsiennes. Il y a la crevette blanche, qu'on appelle la crevette blanche, et la crevette archée. Ce sont des crevettes qui sont apparues dans le golfe de Gabès dans les années 70-80, qui ont commencé à occuper un peu, à avoir des biomasses importantes. Je ne dirais pas qu'elles sont en train d'occuper la niche écologique de la crevette royale. Mais ce qu'on constate actuellement, je vous donne un exemple, la crevette royale, donc les gambasses, ce sont les rendements horaires qui ont baissé. C'est-à-dire que dans les années 90, les pêcheurs pêchaient jusqu'à 20 kilos par heure de crevettes royales. Et là, depuis quelques années, ils en sont à 0,5 kilos par heure, sachant qu'à côté, il y a également des prises des deux autres crevettes, 0,25 kilos par heure. Donc là, on est vraiment... voilà. Et le problème, c'est que le consommateur, du moins tunisien, n'est pas encore prêt à consommer des espèces exotiques. Bon, là, on s'habitue à manger de la crevette blanche et de la crevette archée, mais on n'est pas content. Donc voilà, parce que voilà, l'autre, elle est réputée pour être meilleure au goût, etc.
Est-ce qu'elle n'est pas victime de la surpêche, cette crevette-là? Est-ce qu'on
la
est sûr
crevette
que
royale,
c'est...
On a constaté une baisse des stocks, mais l'écosystème est assez résilient. C'est-à-dire, il y a la pêche à la crevette est très réglementée. Enfin, il y a des campagnes, deux campagnes par an, au mois de mai, au mois de novembre. C'est assez bien respecté. Donc, c'est vrai qu'il y a des années, on observe des creux, mais une ou deux années plus tard, on retrouve à peu près les mêmes captures. Donc, c'est un stock qui est assez bien géré.
Merci, Madame Mondasram. Une question, Madame.
Du coup, je n'ai pas répondu.
Ah oui, la première question.
Oui, il y a certaines espèces qui sont plus colorées, qui ont des formes un peu plus bizarres que les autres, mais il y a également des espèces qui ressemblent beaucoup aux espèces méditerranéennes. On n'a pas vraiment d'études par rapport à la capacité des poissons, des prédateurs méditerranéens à consommer les autres espèces. En théorie, c'est assez joli. Voilà. Je sais que pour les animaux terrestres, ça arrive très souvent ce genre de choses où les organismes assez colorés se font assez facilement prédater. En mer, je suppose également, mais il n'y a pas d'études qui ont démontré que les espèces exotiques pourraient être plus facilement prédatées par les poissons méditerranéens.
Merci. Madame, vous avez une question, allez-y.
Que pouvez-vous nous dire de la valeur nutritionnelle des poissons pêchés dans la Méditerranée par rapport à tout ce qui est pollution?
Ah, c'est une question pour qui? Alors, je voudrais peut-être...
Je vous laisse
la question piège.
Plus on va monter dans le niveau trophique, c'est-à-dire en haut de la chaîne alimentaire, plus le poisson va accumuler de contaminants. Donc, quelque part...
il vaut mieux manger de la sardine que du thon. Je vais peut-être passer la parole à monsieur Ménard qui pourra
avoir
une réponse plus pertinente, peut-être.
Un avis différent.
Oui, mais le thon, c'est bon, hein, quand même. Donc, en fait, oui, évidemment, plus on, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation et la bioamplification. Donc, c'est en effet toute cette problématique de suivi des contaminants dans les réseaux trophiques et surtout dans les chaînes alimentaires, donc dans l'aspect linéaire de la chaîne. Plus on monte haut, plus on a des chances d'avoir des concentrations en polluants importantes. Donc, tout ça pour dire que je suis un grand amateur d'espadons, mais j'essaye de ne pas manger trop souvent d'espadons. Voilà, ça c'est une première raison. Il faut peut-être éviter de manger trop de poissons qui se baladent pas loin du Rhône. Parce que, évidemment, vous le savez tous, le Rhône est un vecteur important de nombreux polluants chimiques. Et ça a été évidemment démontré. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ces polluants chimiques, on les retrouve en effet, des fois en quantité importante et en dose supérieure aux doses normalement autorisées. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc voilà. Et après, il y a aussi une autre problématique au niveau des polluants. Donc notamment, c'est la problématique des POP, les polluants organiques persistants, qui sont des polluants que l'on retrouve partout dans les écosystèmes, hein, que l'on retrouve vraiment partout. Et on a beaucoup de mal, souvent, à les analyser et à les détecter. C'est un peu une course, un petit peu comme les sportifs et la recherche des molécules pour essayer de doper les sportifs. Eh bien, on a un petit peu le même problème, c'est-à-dire qu'on a parfois des manques de capacité analytique pour détecter des seuils de molécules, parce que les cocktails de molécules que nous fabrique l'industrie sont extrêmement diversifiés et on a en effet beaucoup de mal parfois à ne serait-ce que les quantifier. Voilà, donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et un vrai problème de santé publique.
Merci, monsieur Ménard. Une autre question ?
Pour rebondir en fait sur la pollution, donc vous avez abordé plutôt polluants organiques, métalliques et autres. Est-ce qu'on a un petit peu de recul sur tout ce qui est particules microplastiques? Je sais qu'on en trouve dans les huîtres, je sais qu'on en trouve aussi dans les poissons, mais là, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas justement l'absence de bioaccumulation et on le retrouverait tout au long de la chaîne ça. Et puis après, en ce qui concerne plutôt les filets de pêche, est-ce qu'on se retrouve pas... est-ce que vous avez un recul? Est-ce que vous observez plus en plus de filets de pêche qui sont remontés avec de plus en plus de macro-déchets? Ou est-ce que c'est stable en fait sur ces dernières années, dernières dizaines d'années? Merci.
Alors là, double question. Hein. D'abord, oui. La première peut-être à M. Ménard et après M. Vendling peut-être pourra témoigner. Monsieur Ménard.
Oui, alors sur les plastiques, c'est un vrai problème et c'est un problème actuel sur lequel la communauté scientifique se penche de plus en plus. Donc d'une part, on va dire à grande échelle, on a pu constater qu'il y avait des zones de concentration dans l'océan mondial qui sont liées essentiellement à des grandes zones de circulation qu'on appelle les grands gyres. Donc vous avez probablement vu qu'il y a deux grandes zones de concentration dans le Pacifique, une à l'est et une à l'ouest. On parle de continents de plastique. Alors quand on parle de continents de plastique, on ne parle pas nécessairement de plastique qui est nécessairement apparent à la surface. Mais en fait, comme vous le savez et comme vous l'avez très bien dit, hein, le plastique se décompose, mais il ne disparaît pas. Donc on le retrouve de toute façon sous une forme très fine et très petite au cours du temps dans le milieu. Donc c'est un vrai problème. Donc déjà, supprimer les sacs plastiques dans un pays comme la France, c'est déjà une très bonne chose. Donc ça, c'est sûr que c'est un problème. Quel est l'effet sur les organismes? Alors il y a des effets qui sont très emblématiques. C'est-à-dire on a tous vu des photos d'oiseaux type albatros ou etc. avec morts, évidemment, dont on ouvre l'estomac et on trouve des morceaux de plastique à l'intérieur qui ont probablement contribuer à la mort de l'animal. Donc ça, évidemment, le plastique est un leurre parce que c'est coloré, parce que voilà, ça peut être considéré comme une proie par des prédateurs et donc il peut l'ingurgiter. Ensuite, dans le milieu, évidemment, les poissons peuvent l'ingurgiter. Alors, moi, j'ai ouvert beaucoup de contenu stomacaux de thon. J'ai jamais trouvé de plastique. Mais je pense que ça peut arriver, évidemment. Donc ça, c'est un autre problème. Mais on s'est aussi rendu compte que, par exemple, pour les méduses, le plastique pouvait être un support pour la phase hydraire des méduses. Et donc, le plastique...
hydraire.
La phase hydraire, c'est la phase fixée de la méduse, c'est-à-dire c'est la phase qui n'est pas libre dans la mer, mais qui se fixe sur un substrat et qui grandit de façon... c'est un animal colonial. Donc c'est un cycle très compliqué, la méduse. Donc voilà, on s'aperçoit donc que finalement, pour certaines espèces, ça peut constituer un habitat. Donc évidemment, la nature est extrêmement inventive sur tous ces aspects-là. Après, avant de donner donc juste la parole sur la question des filets, moi au départ, je pensais que vous alliez parler des filets perdus. Et les filets perdus sont un vrai problème. C'est un vrai problème, notamment... un peu lié à la pêche thonnière tropicale, parce que ça peut être des filets dans lesquels vont s'étrangler ou se coincer des espèces de juvéniles de requins, des tortues, donc des espèces emblématiques, évidemment, ça fait hurler. Voilà, donc ça, ça peut être un vrai problème. Et notamment dans la pêcherie tropicale thonnière, il y a un mode de pêche que l'on appelle des pêches sous DCP, sous dispositif de concentration de poissons. Donc on met à l'eau des radeaux. Ces radeaux ont la capacité d'agréger les thons parce que les thons sont des animaux grégaires, donc ils ont tendance à se regrouper entre congénères et sous des objets flottants. Et pour éviter que ces objets flottants ne dérivent trop, à un moment, on mettait, d'ailleurs on continue, mais de moins en moins, à mettre des filets qui pendaient. Et ces filets qui pendaient, justement, provoquaient des mortalités de requins, notamment de requins et de tortues. Donc on est en train d'essayer de créer des DCP dits écologiques qui peuvent justement éviter ce genre de mortalité. Après, sur les chaluts qui ramassent des...
Voilà, monsieur Wendling, est-ce que parmi vos adhérents, vous en avez de plus en plus
Parmi tous les pêcheurs de Méditerranée, c'est assez effroyable ce qu'ils ramènent. Donc ce n'est pas un constat qui date d'aujourd'hui, hein, c'est un constat qui date de plusieurs années. À titre d'exemple, nous on s'est amusés pendant un an à ramasser tous les sacs plastiques, bouteilles de plastique que les chalutiers pêchaient et qu'on impose de revenir en mer, enfin de ne pas rejeter à la mer, mais de garder à terre. Donc on leur fournissait des sacs pour collecter ces déchets, on les a pesés jour après jour. En une année, on a collecté plus de 150 tonnes de plastique avec 12 ou 13 chalutiers. Donc que ça soit en zone du large, parce que ces bateaux ils pêchent jusqu'à 80 km des côtes, ou que ça soit en zone côtière en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est effroyable ce qu'on peut constater, ce qu'il y a sous l'eau. Et donc c'est pour ça souvent que les professionnels sont exaspérés d'entendre d'être montrés systématiquement du doigt, parce que c'est une profession qui est en petit nombre et facilement identifiable, alors que chacun est responsable de cette situation. Si vous plongez en zone côtière devant des grandes villes comme Nice ou Cannes, etc., et que vous avez sûrement vu sur Internet le nom de sacs plastiques, de bouteilles, ça a un impact non négligeable sur les écosystèmes. Et ça, tout le monde est responsable. C'est pas la profession, c'est pas les pêcheurs professionnels qui sont responsables de cette situation. En général, ils essayent de garder sur le bateau ces sacs plastiques pour les décharger à terre. Donc la situation, elle est effarante, quoi. C'est tous les jours, on en ramasse, tous les jours.
Merci, monsieur Wendling. Une autre question ?
Oui, j'avais plusieurs questions. La première, c'était pour rebondir sur un élément de réponse qui avait été abordé précédemment. C'était sur les bioaccumulants. Je prends pour exemple le mercure. Je crois qu'en France, le seuil est de 0 microgramme, je crois, par litre. Et il y a deux exceptions. C'était pour l'espadon et le thon, qui sont de 1. Au lieu de 0,5, je voulais juste savoir pourquoi ces deux exceptions. Et aussi, la deuxième question, c'est dans le contexte de pollution globale, est-ce qu'on n'irait pas vers une élévation de ce seuil de tolérance du mercure chez les poissons ?
Alors, le mercure chez les poissons, monsieur
Alors,
Ménard ?
Oui, le mercure chez les poissons, c'est en effet quelque chose de pas simple. D'abord, il faut savoir que le mercure existe à l'état naturel. Donc il y a du mercure qui est lié notamment à l'activité volcanique. Donc en effet, dans des zones insulaires notamment, où il y a beaucoup d'activité volcanique, il y a plus de mercure. Donc on retrouve le mercure dans les tissus des poissons grands prédateurs. Donc ça, c'est un premier point. Donc pourquoi la législation permet en effet d'avoir des taux de mercure plus acceptés ou acceptables chez les grands prédateurs ? Dans le détail, franchement, je ne sais pas, mais c'est peut-être une des raisons. C'est pour pouvoir en effet le mettre... sur le marché. Mais ce qui est vraiment important, et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire sous forme de boutade en disant que j'aimais l'espadon et que j'essayais de ne pas en manger trop souvent, c'est finalement la dose accumulée. Ça porte un terme d'ailleurs, mais je ne me souviens plus, en voilà, dose journalière admissible. Voilà. Donc c'est, en fait, ce qui est important, c'est l'accumulation de ce que vous mangez en termes de toxiques dans votre corps et dans vos organes. Donc voilà... Après, il y a des études qui ont été faites, notamment, je crois, aux Seychelles. Peut-être, toi, tu sauras mieux que moi, mais les Seychelles, c'est un endroit où il y a du mercure à l'état naturel. Les populations mangent énormément de poissons. Il n'a pas été observé de mortalité supérieure au niveau des populations indigènes. Alors bon, après, on peut dire qu'elles ont peut-être développé des mécanismes évolutifs.
Monsieur Wendling, vous voulez préciser quelque chose
pour juste préciser un peu ce que dit Frédéric. C'est en effet, pour le thon et l'espadon, il y a une réglementation communautaire, donc européenne, avec des taux supérieurs pour aux autres espèces, justement parce que c'est des grands prédateurs qui bioaccumulent, donc qui concentrent ces polluants et que, pour des raisons aussi commerciales de commercialisation, sur la base des quantités moyennes que les gens absorbent, on a accepté d'élever ces taux pour pouvoir commercialiser les grands prédateurs. Voilà. Considérant que les gens ne mangeaient pas du thon tous les jours.
Monsieur, c'est à vous.
Alors moi, j'ai une question pour Monsieur Ménard. Tout à l'heure, vous disiez que pour protéger efficacement les espèces, il faudrait mettre 30% de zones protégées sur les océans et les mers. Aujourd'hui, on est à combien et qu'est-ce qui est prévu ?
Alors, à combien on est ? On est bien loin des 30%. Je pense qu'au niveau mondial, on doit à peine atteindre les 10%, mais je n'ai pas le chiffre en tête. Cette étude, c'est une étude toute récente. Hein, donc voilà, ce sont des projections. Et les projections étaient réalisées essentiellement sur la haute mer, parce qu'actuellement, on a une vraie problématique sur la haute mer, qui est un petit peu une zone qu'on pourrait presque caractériser de non-droit par rapport à ce qui se passe dans les zones économiques exclusives, donc qui sont les zones essentiellement des plateaux continentaux et qui sont les zones de pêche principales, hein, de pêche côtière, je voulais dire. Et donc, dans la haute mer, se pose clairement la question de savoir faut-il mettre des aires marines protégées pour protéger la biodiversité marine ? Parce que, évidemment, les choses ne sont pas réparties de façon aléatoire. Donc, on peut trouver des zones dans lesquelles on a une biodiversité plus riche pour telle ou telle raison, des mondes sous-marins, une activité particulière au niveau du sous-sol qui génère des régimes de production particuliers, etc., etc., des présences d'oiseaux marins, de migrations de mammifères, etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en jeu pour justement essayer de favoriser la mise en place de ces aires marines protégées. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vers la mise en place de ce genre de système. Il y a actuellement une réunion à l'ONU pour discuter de la problématique du droit de la haute mer, dans la haute mer. Et évidemment, une des questions qui va se poser, ça va être comment mettre en place des systèmes de protection efficaces.
Je crois que Mme Lasram avait une précision à apporter sur ces aires.
Le chiffre en Méditerranée, c'est 2,5% de la surface du plateau continental. En fait, les 30% de la mise en réserve, c'est la nouvelle étude qui vient de paraître, mais selon la Convention sur la diversité biologique, prônait une mise en réserve d'au moins 10% de la surface de chaque écorégion. Alors si on prend la Méditerranée, le plateau continental, c'est-à-dire en gros c'est la zone côtière qui va de la côte jusqu'à 200 mètres de profondeur, ça constitue une écorégion. Et la mise en réserve actuelle, la surface des aires marines protégées au niveau du plateau continental, elle est de 2,5%, ce qui est très loin de répondre aux 10% de la Convention sur la diversité biologique et des 30%. Après, comment établir une aire marine protégée ? C'est justement le grand débat actuellement. Est-ce que, alors, traditionnellement, je prends le cas de la Tunisie, par exemple, les deux aires marines protégées qu'il y a en Tunisie, bah, simplement, ce sont des zones militaires. Bah oui, il n'y a pas mieux pour protéger une région que d'avoir une zone militaire, une interdiction, je dirais, naturelle autour. Après, on dit que les aires marines protégées devraient protéger les zones où il y a une forte biodiversité. Mais on tend aussi à dire que il faudrait qu'une AMP, donc une aire marine protégée, protège une zone où il y a une forte biodiversité, mais également où l'impact humain est encore faible. Et il ne s'agit pas de mettre sous réserve une zone où il y a déjà des activités humaines. Donc il y a plusieurs, c'est ce qu'on appelle, c'est une discipline qui s'appelle la biologie de la conservation, où justement on essaye d'optimiser ce qu'on appelle le réseau de mise en réserve.
Merci Madame Lasram. Une autre question, il y a pas mal de questions, Marie-Ève. Voilà. Ah, jeune homme, c'est à vous.
C'était pour rebondir au niveau du thon rouge. À ma connaissance, le thon rouge n'est pas le seul grand prédateur de la Méditerranée. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce que les scientifiques le suivent lui et pas un autre.
Alors, je ne crois pas que ce soit les scientifiques qui ont montré du doigt cette espèce. C'est les organisations non gouvernementales écologistes qui ont utilisé cette espèce comme porte-drapeau des problèmes de conservation et de biodiversité en Méditerranée. Parce que c'est une espèce un peu emblématique. D'une part, c'est une espèce qui est pêchée depuis plusieurs millénaires. Bien avant Jésus-Christ, il y a déjà des traces de pêche au thon rouge en Méditerranée. C'est une espèce qui vit en Atlantique, qui rentre en Méditerranée pour se reproduire. C'est une espèce gigantesque, puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 700 kilos et vivre plus de 40 ans. Et donc, c'est une espèce un peu incroyable. C'est un poisson à moitié sans chaud, etc. Donc, bon, c'est une espèce qui permettait de servir d'emblème pour les gens qui travaillent pour la conservation des milieux et la conservation des espèces. Voilà. Et du coup, ben, comme il y a une pression forte de l'opinion publique sur cette espèce, les scientifiques ont focalisé aussi sur cette espèce-là. Puis c'est une espèce qui traverse l'océan Atlantique en quelques semaines. C'est une espèce qui est capable de se nourrir près de l'Islande. Donc c'est une espèce un peu incroyable.
Monsieur Ménard, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, c'est une espèce incroyable, mais juste pour répondre à la question, on s'intéresse aussi beaucoup à la problématique des requins. En termes de biologie de la conservation, il y a des gros problèmes, en effet, sur un certain nombre d'espèces de requins. Et puis, on s'intéresse aussi aux poissons qu'on appelait les poissons porte-épée. Donc, ce sont tout ce qui est marlin, espadon et compagnie, qui sont aussi des grands prédateurs, qui sont tout en haut de la chaîne. Et juste une petite anecdote, c'est que dans le milieu marin, un grand prédateur commence sa vie comme étant une proie, parce qu'il est tout petit.
Autre question, il me semblait que j'avais vu par là...
On a une photo là, et dans le teaser des cafés, il y avait écrit « Serons-nous condamnés à manger des méduses ?» Alors on a certainement, beaucoup d'entre nous ont lu les publications de Philippe Curie, qui travaillait sur le courant du Benguela, donc en Namibie, Afrique du Sud, et qui comparait des zones de pêche très intense avec des zones de pêche moins intenses. Et ma question, elle est assez simple, c'est est-ce qu'on a un équivalent de travail en Méditerranée qui rendrait responsable en partie la surpêche de la pullulation des méduses, ou est-ce que ce serait plutôt plurifactoriel, ou etc. Merci.
Alors, l'exemple auquel vous faites référence, qui est le travail en effet de Philippe entre la Namibie et l'Afrique du Sud, hein, et le Benguela, donc c'est un exemple absolument incroyable, ce qui s'est passé en Namibie. Donc, en effet, on a un exemple dans lequel le système a basculé, mais complètement. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un changement de régime, le fameux régime shift en anglais. On a vraiment eu un basculement incroyable d'un système diversifié avec des chaînes à base de petits pélagiques très similaires à ce que l'on trouvait dans le Benguela, dans le système Afrique du Sud. Et en Namibie, la surpêche a provoqué un dérèglement tel qu'il y a eu une prolifération de gélatineux, d'organismes gélatineux, et de gobidés qui se sont retrouvés notamment plutôt sur le fond. Et ce système perdure. Il perdure avec absolument aucun recouvrement des stocks de sardines et d'anchois. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ça dans d'autres systèmes ? Peut-être, évidemment. Est-ce que c'est le cas actuellement en Méditerranée avec les méduses ? Non, définitivement pas. En tout cas, pas pour le moment. Par contre, ce que l'on voit, c'est des pullulations de méduses. Ces pullulations de méduses, elles ont toujours existé. Elles ont toujours été présentes en Méditerranée, notamment la fameuse Pélagia, hein, que l'on retrouve de façon un peu récurrente sur nos côtes, mais qui est aussi au large, et qui provoque des désagréments assez terribles, hein, puisque ça pique quand même, et puis il y a des gens allergiques, donc ça provoque des vrais problèmes aussi en termes de tourisme. Donc voilà, l'origine de l'occurrence de ces pullulations, elle est encore très probablement multifactorielle. Sur l'aspect multifactoriel, on peut aussi se dissimuler sur le fait qu'on ne maîtrise pas bien les causes. On est quand même dans des écosystèmes extrêmement complexes avec des interactions très compliquées, à la fois d'ordre environnemental. Je vous ai décrit le cycle de la méduse, c'est très compliqué. Donc ça veut dire, quel stade éventuellement se met à être favorisé par le système et va entraîner éventuellement une pullulation. Ça, on le maîtrise quand même pas très bien. L'océan est vaste. On n'a pas toujours les capacités de pouvoir l'échantillonner de façon efficace. C'est une des raisons pour lesquelles on s'intéresse souvent aux espèces pêchées, parce que finalement, les données des pêcheurs, ce sont des données qui alimentent nos recherches, parce qu'on est capable, tout au moins en faisant des hypothèses, d'inférer des informations sur l'abondance des espèces à partir des captures. Bon, voilà, toutes ces choses-là font que, bon, c'est pas toujours facile d'aller expliquer un phénomène de pullulation. En tout cas, je pense qu'on peut encore espérer manger du poisson en Méditerranée pendant un moment, mais méfiance, en effet, méfiance, il faut être vigilant.
Madame, peut-être une dernière question, allez-y.
Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, au niveau des pays qui partageons donc la Méditerranée, quelle est leur gestion de la mer ? Savoir s'il y a une politique plutôt harmonieuse entre les pays ou non ? Quel est le quota ? Est-ce qu'il y a une différence entre les quotas et la réglementation ? Merci.
Alors, au niveau de la Méditerranée, en gros, il y a le nord et le sud. Il y a 7 pays communautaires qui bordent la Méditerranée et 7, je crois, qui ne sont pas communautaires. Donc, il y a une organisation régionale des pêches qui s'occupe de la Méditerranée dans son ensemble qui s'appelle la CGPM. Et sinon, la politique commune des pêches, elle gère la pêche pour tous les pays européens qui bordent la Méditerranée. Donc, la réglementation communautaire s'applique de la même manière à tous les pays européens qui bordent la Méditerranée. Sinon, il y a une réglementation régionale qui est celle fixée par la CGPM. Pour le thon rouge, c'est une réglementation internationale parce que ça concerne la Méditerranée, mais aussi tous les pays de l'Atlantique Est. Donc, il y a une tentative de cohérence dans la réglementation. Bien évidemment, après, c'est la mise en œuvre de cette politique commune des pêches ou de cette réglementation des pêches qui peut faire défaut d'un État à un autre en fonction des moyens dont l'État dispose pour mettre en place ou contrôler la réglementation. Mais on peut dire qu'au niveau européen, globalement, la réglementation est assez similaire, même s'il y a des petits écarts sur les modalités de contrôle. Vous allez interroger un pêcheur français, il va systématiquement dire qu'il est plus contrôlé qu'un Espagnol, par exemple.
Merci, monsieur Wendling. Alors, j'avais dit dernière question, mais j'ai un monsieur au fond de la salle là, qui m'a fait des grands signes, qui a vraiment une question importante à poser. Allez-y, monsieur.
Donc, ma question était, est-ce que les élevages de poissons, les grandes concentrations d'élevage de poissons, vues par la prolifération des bactéries, des antibiotiques, peut perturber le milieu, comment dire, autour.
Alors, monsieur Wendling, je crois que tout le monde veut parler, là. Tout le monde veut répondre.
Oui,
monsieur
Ménard, juste d'abord. Quelques mots, mais je laisserai mes collègues. Oui, évidemment, ça a été montré pour des élevages extrêmement intensifs de crevettes en Thaïlande. Ça a été montré, par différentes des élevages de saumon au Chili. Qui ont conduit notamment à absolument l'effondrement d'écosystèmes locaux. Bon, voilà, au Frioul, on a quand même de bonnes chances d'avoir un poisson de qualité, alors que probablement dans la rade de Toulon, dans certaines zones, voilà, c'est peut-être plus compliqué.
Madame Lasram, vous voulez aussi ajouter quelque
chose ? Oui, assez rapidement, par rapport à l'aquaculture, c'est vrai que bizarrement, on n'a pas discuté de l'impact de l'aquaculture. L'impact de l'aquaculture sur l'environnement, c'est d'abord tout ce qui est aliment non ingéré par les poissons. Je parle des cages offshore. Hein. C'est l'aliment qui n'est pas ingéré par les poissons, qui va retomber sur le fond, donc il va y avoir un excès de matière organique, les excréments des poissons, tout ce qui est antibiotiques. Donc évidemment ça pollue, mais ça pollue localement, si vous voulez, et c'est assez facilement dissipé par la courantologie. La question qu'on n'a pas abordée, c'est l'interaction entre la pêche et l'aquaculture, typiquement par rapport au thon, y a un quota à respecter évidemment, mais les pêcheurs ne sont pas contents parce que il y a des aquaculteurs qui pêchent les poissons de petite taille, les thons de petite taille, pour les engraisser en cage. Donc quelque part ils puisent dans le quota et les pêcheurs considèrent que ces gens-là, ce sont des aquaculteurs. Donc quelque part c'est de la concurrence déloyale. Il ne faut pas oublier que l'aquaculture, on prélève quand même dans le milieu naturel. Des sardines, par exemple, on fait de la farine de poisson et on nourrit du poisson d'élevage. Alors, quand vous mangez un kilo de dorade, pour avoir un kilo de dorade comestible, il faut pêcher plusieurs kilos de sardines. Et donc là, toute la problématique de l'interaction entre. C'est toute la problématique entre pêche et aquaculture.
Merci beaucoup, Madame Lasram. Merci à vous, merci à tous. Merci, Monsieur Ménard. Merci, Monsieur Wendling. Merci Frida Lasram.
C'était La pêche de ma bonne mère, le dernier apéro sciences proposé par l'Institut de recherche pour le développement. Tous les apéros sciences du cycle, qui se clôturent donc avec celui-ci, sont à retrouver en ligne sur radiogrenouille.com.